De retour dans le studio de Soleil FM ici au village de l'Oiseau, Port Saint-Louis du Rhône, à l'ombre eh bien, de cette tour Saint-Louis, emblème bien sûr de la commune et sur les bords du Rhône, en direct bien entendu pour ce festival de la Camargue et du Delta du Rhône avec un invité, monsieur Olivier Grunewald, bonjour.
Bonjour.
On va dire que vous êtes présent sur ce festival avec eh bien, un travail qui est un choix de vie, une aventure humaine et un travail à quatre mains puisque vous êtes accompagné par Bernadette Gilbertas qui n'est autre que votre compagne.
Voilà, c'est...
Alors qui n'est autre, et je ne veux pas être réducteur, elle a mille et un talents. Hein.
Alors avant de répondre, je voudrais déjà remercier le festival et je voudrais remercier toutes les petites mains qui ne sont pas des petites mains finalement, tous les bénévoles qui permettent de faire vivre un festival comme celui-ci. Et c'est souvent, on les oublie, c'est bien de venir montrer des photos, mais si les bénévoles n'étaient pas là pour faire tout ce travail, le festival n'existerait pas. Donc je tenais à les remercier.
Eh bien, le message est passé et je vous rassure, et je rassure nos amis auditeurs, ils ne sont pas oubliés puisque cités assez régulièrement, ne serait-ce que pardon, la cérémonie, on va dire, d'inauguration. Ces bénévoles et cette association, ce Festival de la Camargue, vous a permis de vous accueillir, on peut le dire, dans de bonnes conditions avec l'exposition Origine.
Ah ben c'est des conditions formidables, c'est l'occasion de présenter en grand format un projet qui pour moi et Bernadette est un projet de longue haleine puisqu'il a en fait commencé en 78 lors de mon premier voyage en Islande. Ça a été une grande découverte, c'était un grand choc et en fait pour moi l'Islande s'est révélée être une espèce de terre des origines dans laquelle on pouvait retrouver la sensation de tout le cycle depuis le chaos originel avec le côté volcanique jusqu'à l'émergence de la vie et en fait ça impulser tout un travail que l'on a continué partout au cours de nos différents projets. Et donc, c'est ce que l'on présente. C'est un voyage dans le temps de 3,8 milliards d'années, commençant par le chaos originel avec le volcanisme, le chaos cosmique avec les aurores boréales, le façonnement de la Terre avec toutes les éruptions volcaniques, le façonnement de la Terre par l'érosion avec une diversité de paysages absolument incroyable, et puis un moment clé, l'émergence de la vie telle que nous on la conçoit, c'est-à-dire le monde végétal, le monde animal. En fait, cette émergence de la vie, on oublie souvent qu'elle a commencé quasiment quelques millions d'années après ce qu'on appelle l'accrétion de la Terre. Donc cette boule de feu qui a commencé à se solidifier et cette émergence de la vie, on la date entre 3,8 et 3,4 milliards d'années. Ce qui est énorme, évidemment, c'était une vie qui vivait sur un cycle pas du tout le même que celui que l'on connaît aujourd'hui. C'était essentiellement des micro-organismes. Et en 2016, on a réussi à monter la première mission de biologie des environnements extrêmes sur un site qui s'appelle Dalol, au nord de l'Éthiopie. Et c'est un site qui présente des conditions presque analogues à la Terre des origines.
Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les marqueurs qui auraient pu être présents, enfin, hormis l'atmosphère que nous avons aujourd'hui, mais sur le reste des composantes de ce territoire, on retrouve des marqueurs qui ressembleraient à ce qu'il y avait originellement.
Voilà, c'était ça l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment, quelle vie on allait trouver dans une eau à 110 degrés, une salinité à 50%, une acidité qui sort des normes connues puisqu'elle était à -1,5. Et donc, voilà, les biologistes ont pu collecter des micro-organismes et faire tout un travail sur ce site. Et c'est assez fascinant d'imaginer que la vie vient de si loin. Quoi.
La vie et la biologie, en règle générale, elle est téméraire, quoi qu'il arrive. Peu importe le support, le milieu, vous me l'avez dit, elle se développe dans les grandes profondeurs, dans les lieux les plus chauds, les plus extrêmes, comme les laves volcaniques lors de leur refroidissement. On retrouve des traces à chaque fois, des briques de la vie de partout.
Alors, il y a eu une année, il y a une dizaine d'années, il y a eu deux équipes de biologistes qui ont travaillé dans ce qu'on appelle des tunnels de lave à La Réunion et à Hawaï. Et en fait, ces tunnels se forment lorsqu'il y a de grosses coulées de lave. Souvent, la partie supérieure se refroidit plus vite, donc finit par faire une espèce de voûte. La lave coule très vite, très fluide à l'intérieur. Et puis, à un moment, quand le robinet s'arrête, la lave fluide continue à couler. et il reste cet immense tunnel. Donc certains font 60 km de long, on en a retrouvé de 60 km de long en Corée, et ces deux équipes ont collecté des micro-organismes très proches au niveau de leur ADN dans des tunnels de lave à 10 000 km de distance. Et donc ça veut dire que la vie avait pu réapparaître dans ces tunnels de lave 10 ans après une éruption. Donc ça, c'est complètement fascinant.
Et dans ce travail photographique et cette exposition, l'on retrouve certains des théâtres d'opération, notamment en Éthiopie, représentés sur ces grands formats.
Voilà, l'idée c'était d'illustrer, alors sans rentrer effectivement après dans la photo au microscope, enfin bon, bref, mais l'idée c'était de suggérer toute l'histoire de l'apparition de la vie, et puis quelque part de faire réfléchir au fait que cette vie a mis des milliards d'années à se construire dans sa diversité, et c'est vrai que qu'est-ce que l'homme en fait en si peu de temps? Puisqu'on est à la sixième extinction de masse, ça fait réfléchir sur quel lien l'homme a réussi à garder avec le vivant. Effectivement, c'est un peu problématique. Ce qu'il faut imaginer, pour être un peu brutal, c'est que la nature survivra à l'homme. Les ours blancs seront peut-être bleus, ils auront 6 pattes, mais c'est tellement dommage, ce lien avec le vivant est tellement fort, et nous on le voit, puisque dans notre travail, le fait d'aller faire des photos, c'est autant un but qu'un prétexte. Le but, c'est évidemment de ramener des images, mais on n'est pas on cherche pas des trophées chaque fois qu'on part, mais le but, c'est aussi de s'immerger, et le lien que l'on tisse avec la nature à ces moments-là, il est vraiment très fort. On va partir un matin, on va peut-être pas faire de photos du tout, mais on aura passé du temps, il y aura eu des oiseaux qui passent, il y aura eu des odeurs, il y aura eu plein de choses. Le lien avec la nature, il est super fort pour moi, et on s'en est tellement éloigné qu'on finit par oublier son importance. Et là, je parle du côté émotionnel, personnel, mais l'importance du vivant, on le voit chaque jour dans toutes les problématiques de dégradation, de problématiques, je veux dire, on arrive même à ces problèmes de grandes maladies qui peuvent se développer, qui sont liées aussi à toutes les dégradations que l'on a générées au niveau du vivant. Et c'est un tel gâchis, quoi.
Ouais. Et vous êtes là pour être, comme on le dit souvent, le messager justement de tout cela. L'Éthiopie, c'est pas terminé. Vous préparez une prochaine campagne. Je sais pas si vous appelez ça comme ça.
Alors c'est pas en Éthiopie, c'est en Tanzanie.
En Tanzanie, pardon.
Alors en
mais
fait,
sur la même idée.
Alors oui, dans le travail que l'on a toujours essayé de réaliser avec Bernadette, c'est le fait que pour nous, c'est important de mettre nos compétences, entre guillemets, en tant que photographe, journaliste et réalisateur, au service de projets qui soient des projets scientifiques et humains. Et donc là, on prépare une mission scientifique sur un volcan au nord de la Tanzanie, sur un volcan qui s'appelle l'Oldoinyo Lengai, qui est très particulier puisque c'est le seul volcan au monde à émettre des laves qu'on appelle froides, c'est-à-dire des laves qui ne sont qu'à 600 degrés, qui sont extrêmement fluides, qui coulent dans la journée, on voit comme du pétrole couler, gris sombre, et on ne voit l'incandescence que la nuit. Donc c'est très très particulier, et c'est un volcan qui a eu une période d'éruption très forte en 2007-2008, qui a affecté énormément les populations Maasai. Et en fait, dans notre projet, c'est un projet en deux parties. Une partie vraiment scientifique, mais on va monter sur ce volcan, on emmène des cordes, des câbles. L'idée, c'est d'aller collecter et de la lave et des gaz pour essayer de voir, avoir un suivi précis de l'histoire de la plomberie de ce volcan. Donc il y a le côté aventure scientifique pure, mais ce côté scientifique est associé aussi au fait de restituer aux populations Maasai le travail que l'on va faire. Donc l'idée, c'est de...
Ah, c'est-à-dire que vous ne partez pas avec l'idée de, allez, les infos, les données, c'est pour nous et on traitera ça en Europe, voilà, ou en France. Vous dites, non, il faut que les populations puissent être aussi destinataires de cette information qui les concerne au premier chef, quoi.
Tout, Tout à fait. Alors déjà, de toute façon, maintenant, quand on travaille à l'étranger pour une équipe scientifique, par exemple française, il y a des accords internationaux, il y a l'obligation d'avoir dans son équipe des scientifiques du pays. C'est normal. Donc, ils seront co-signataires de tout le travail scientifique qui va être fait. Et puis, notre idée, c'est que c'est un volcan censé être sacré pour les Maasai, mais sacré comment ? Est-ce qu'il est sacré pour les anciens ? Est-ce qu'il est sacré encore pour les jeunes ? Qu'est-ce qu'il représente ? Est-ce que l'on voudrait faire ? Et c'est pour ça qu'on a lancé une collecte. Donc, on a réussi à financer la partie scientifique. Mais maintenant, on aimerait retourner là-bas à l'automne prochain en ayant fait des petites vidéos, en ayant fait des traductions en langue Maasai pour pouvoir faire des cinémas débats dans les communautés, donc venir avec un drap blanc, un vidéoprojecteur à batterie et passer des soirées dans les communautés
et recueillir le témoignage, quoi,
leur montrer ce qui se passe dans leur volcan et échanger. Et ça, je pense que déjà ça va être une expérience humaine passionnante. Je pense que c'est important de montrer qu'on vient pas que prendre, on vient aussi redonner. Et de voir la possibilité aussi, avec les communautés Maasai, de garder une espèce de tissu d'information, parce que ce volcan peut générer, il est très peu surveillé, donc il peut générer dans le futur une grosse éruption, mais c'est important que les personnes soient informées en amont. Parce qu'ils ont perdu énormément de troupeaux, ils ont été obligés de quitter leur village, enfin c'est voilà, donc pour nous c'est important. Il y a des volcans qui sont très surveillés parce qu'il y a des grosses villes en dessous. Là c'est un volcan, c'est juste des communautés Maasai, donc ben voilà, il n'y a pas de surveillance.
Ben voilà, et bravo en tout cas. Alors comment on fait pour contribuer, participer à cette belle aventure en tant qu'anonyme citoyen, auditeur de Soleil FM, visiteur de ce festival ? Il y a possibilité ?
Alors il y a possibilité, donc sur la plateforme qui s'appelle Ulule, et vous cherchez la mission Lengai. Et donc sur la plateforme, on a mis évidemment énormément d'informations sur ce que l'on va faire, parce que c'est quelque chose en plus qu'on voudrait ensuite pouvoir faire revivre sous forme de reportage photo, sous forme de documentaire. Donc c'est vrai que dans le contexte d'aujourd'hui, où les difficultés financières touchent tous les grands projets.
Faire appel à la participation.
Voilà, on fait appel à la générosité et à l'envie de participer.
Et avec un projet qui a du sens, hein, bravo en tout cas. Moi j'invite nos amis auditeurs et visiteurs à venir découvrir cette exposition avec ses formats extraordinaires, que ce soit sur le port de Plaisance ou bien sur le jardin de la Tour qui est attenant bien sûr à ce lieu, à ce village de l'oiseau, à venir découvrir votre travail. Donc signé, je rappelle, Olivier Grunewald, que nous avons donc au micro bien sûr, mais on n'oublie pas Bernadette Gilbertas. Donc, vous l'avez dit, journaliste, photographe.
Journaliste, réalisatrice, autrice de livres sur justement les problématiques environnementales. Et donc, voilà, donc on collabore ensemble depuis maintenant 40 ans.
Ben oui, une belle aventure. Merci en tout cas de ce témoignage précieux sur les ondes de Soleil FM et du privilège que vous nous avez donné. Et puis, je vous espère plein de belles aventures dans cette quête des origines de la vie, tout simplement.
Merci beaucoup et merci au festival.
Ben voilà. Et nous, on se retrouve bien sûr avec d'autres témoignages. Et surtout, on vous invite à participer à la révélation du prix Alan Johnson du côté de la salle Marcel Pagnol. Ce sera à 11h, si je ne m'abuse. On y sera, bien entendu, et on va découvrir là aussi de très, très beaux clichés.